bonjour à tous. En mon nom et en celui de Corinne, donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et les directeurs, donc les responsables de ce numéro 1 de la revue Participation, de nous avoir donc invités à tenter de dresser cet état des lieux donc sur cette thématique de la participation environnementale. Donc ce domaine, comme vient de le rappeler Denis, hein, aborder la question de la participation environnementale, ça s'imposait d'une certaine manière dans la mesure où l'environnement est un domaine, mais faut-il le rappeler encore, un domaine historique d'expression de cette revendication participative, mais aussi donc d'invention des protocoles destinés à faire droit à cette revendication. Un domaine également d'institutionnalisation de cette revendication, de cette participation, ce que traduit donc cette notion de démocratie environnementale qui a été récemment mise en exergue par le Conseil d'État dans une série donc de séminaires consacrés à cette thématique. Et naturellement, le domaine de l'environnement est aussi un domaine où on s'interroge beaucoup sur la portée de ces dispositifs participatifs. Alors, comment avons-nous procédé donc avec Corinne pour dresser, enfin pour établir notre contribution à cet état des lieux? D'abord, donc pour reprendre une expression qui a été donc rappelée ce matin dans l'introduction, on a souhaité pouvoir connecter quelques-uns des bourgeons du rhizome de ces recherches sur la participation et plus spécifiquement en ce qui nous concerne, essayer donc de connecter les bourgeons francophones et anglo-saxons. Il est vrai que la maturation du champ de recherche sur la participation environnementale a été plus précoce dans le monde anglo-saxon. Étant, il est vrai également que les champs de recherche donc sur ce domaine, le champ francophone est resté un peu coupé de ce champ de son cousin anglo-saxon, et donc il nous a paru important d'essayer de mobiliser des contributions fortes sur le plan à la fois méthodologique et conceptuel qui méritent tout à fait d'être débattues plus qu'elles ne le sont actuellement. Cette préoccupation de décloisonner et de donc lier les champs de recherche francophones et anglo-saxons, c'est une préoccupation qui est largement partagée, notamment dans la petite communauté de recherche. Et ça a donné lieu à un séminaire d'échange entre chercheurs donc français et anglo-saxons organisé par Laurent Mermet tout récemment. Donc au titre du programme Concertation, Décision et Environnement. Nous avons également voulu esquisser une connexion donc entre les questions, disons la question démocratique et la question des inégalités environnementales, là aussi en essayant de mettre à profit l'antériorité des préoccupations sur ce thème des inégalités dans le champ anglo-saxon. Alors ensuite, il nous est vite apparu que nous n'aurions absolument pas la possibilité de traiter l'ensemble de cette très vaste littérature sur cette thématique qui... Dont les frontières sont difficiles à cerner. Hein. D'un côté, ça nous emmène vers la gestion de proximité, qui est un domaine donc très, très prégnant, notamment pour les gestionnaires hein, des services d'environnement, avec parfois une confusion qui est plus ou moins entretenue entre participation citoyenne et satisfaction des usagers des services d'environnement. Et puis, de l'autre côté, hein, il y a aussi une frontière avec les problématiques du risque ou de la santé. Et donc, dans ce vaste domaine, nous avons donc procédé de manière assez inductive et en partant d'un principe de sélection, et nous avons finalement restreint notre investigation principalement aux enjeux de gestion territoriale des ressources et des risques, en étant par ailleurs attentif à la tension entre donc les protocoles destinés donc à organiser intentionnellement la participation du public, quelle que soit la taille de ce public, ce que nous avons appelé donc dans l'article la participation environnementale ou la démocratie environnementale, mais tension entre donc ces protocoles, ces moments participatifs intentionnels, et la gestion plus ou moins concertée de ces enjeux de gestion des ressources et des risques qui donc englobe évidemment gestion concertée qui englobe les moments participatifs. Finalement, nous avons organisé donc notre mise en ordre raisonnée des textes que nous avions rassemblés autour des trois moments de recherche sur la participation qui ont été également rappelés ce matin. Le moment normatif, le moment descriptif et puis donc pour nous plutôt le moment ensuite évaluatif et critique donc d'interrogation sur la portée de ces dispositifs. Alors, sans surprise, l'invention de cette démocratie environnementale s'est accompagnée donc d'un intense travail de justification sur les finalités et de prescription sur les modalités. Sur la question des finalités, je me contenterai ici, donc j'en ai rappelé les principales qui sont donc évoquées dans la littérature. Il peut s'agir on peut avoir pour ambition de, selon la formule désormais bien établie, de démocratiser la démocratie, mais dans une perspective donc plus gestionnaire, de recréer de la confiance et de manière très explicite de contrer les conflits qualifiés de conflits NIMBY. L'enjeu peut être également donc d'améliorer les décisions sur des enjeux complexes avec l'espoir au final, mais cet espoir n'est-il pas un peu vain, d'améliorer l'environnement. J'insisterai donc simplement sur ce rôle assigné donc à la participation vis-à-vis de la réduction des conflits d'implantation, des équipements dits nécessaires mais indésirables. Conflits qui ont été une des manifestations très fortes du green discontent des années 60 jusqu'à nos jours, car cela permet donc de pointer l'ambivalence de la participation qui est relevée par de nombreux auteurs, dont on a déjà, qu'on a déjà évoqué ce matin, participation qui est parfois proche de la thérapie sociale et qui peut servir à délégitimer le conflit et ceux qui le portent. La question ensuite plus opérationnelle des critères permettant de concevoir des bons protocoles participatifs a également donc été à la source d'une importante et imposante littérature. Il s'agit bien de se doter de critères permettant de guider la conception et ou l'évaluation de protocoles participatifs. Dans l'article, certaines donc de ces contributions ont été déjà synthétisées et mises en perspective dans une contribution de Cécile Blatrix à l'occasion d'un séminaire, donc toujours du programme Concertation, Décision et Environnement. Et donc, on avait souhaité mobiliser d'autres références et contribuer donc un peu à élargir ce panorama. Donc de manière complémentaire avec ce qui avait été esquissé par le bilan sur cette approche critériologique ou normative de la participation qui avait été esquissée par Cécile Blatrix, on a identifié donc trois autres approches. La première, donc, c'est une approche qui a été, enfin, ce sont des critères qui sont mis en avant par les promoteurs d'un modèle d'un protocole participatif qui s'appelle le modèle du discours coopératif, qui est très, à ma connaissance, pas du tout discuté, en tout cas dans les travaux francophones. Les concepteurs de ce modèle du discours coopératif sont Ortwin Rehn et Thomas Weibler. Et pour eux, donc, le bon protocole, c'est celui qui se rapproche le plus de la situation d'interaction communicationnelle idéale. Leur projet est très explicite. Loïc évoquait ce matin un peu la disparition de Habermas, mais en fait, c'est bien ici put Habermas into practice. C'est son absorption, en fait, dans les protocoles. Et les critères qui sont déterminants donc pour ces auteurs et pour les tenants de ce modèle de discours coopératif sont donc fairness, l'équité, qui rend compte du degré d'habilitation des participants, c'est-à-dire de leur chance de pouvoir assister, intervenir, argumenter, contribuer à la résolution des désaccords et à l'obtention de l'accord. La compétence, qui réfère au niveau de qualité atteint dans la compréhension mutuelle entre les acteurs et également dans les informations qui sont fournies dans le cadre du processus, et enfin dans les modes d'évaluation des diverses assertions qui prétendent à l'une ou l'autre forme de validité. Le troisième critère a été rajouté donc ultérieurement, c'est la notion d'apprentissage social, qui a une double dimension, à la fois une dimension cognitive, Mais plus fondamentalement pour donc Rennes et Weibler, une notion donc morale et qui rend compte en fait de la transformation subjective des acteurs qui apprennent à débattre et à orienter leurs discussions vers l'obtention d'un accord et vers le bien commun et donc à passer au-dessus de la défense de leurs intérêts particuliers. Alors ce sont donc des critères qui, on le voit, donc sont très procéduraux. Et qui du coup se distingue de la deuxième approche, qui elle se soucie moins dans un premier temps justement d'identifier des critères procéduraux que d'identifier des objectifs sociaux que doit viser la participation, que doit permettre d'atteindre la participation. L'idée, hein, c'est si on a recours à la participation, c'est bien qu'il y a un problème à résoudre. Quel est ce problème ? Et pour les auteurs donc, qui ont travaillé dans cette perspective, notamment Thomas Beyerle, ces critères doivent être donc identifiés à partir d'une analyse des défaillances de l'action publique environnementale classique. La participation apparaît ici comme donc une façon de corriger les défaillances de cette façon traditionnelle de faire. Or, selon les auteurs, l'action publique environnementale classique bute sur trois problèmes principaux. D'abord, le décalage entre les valeurs et les préférences respectives du public et des professionnels. Ensuite, la méfiance du public vis-à-vis des professionnels et les conflits qui en déroulent. Qui en découle. D'où les trois objectifs que doit poursuivre que doivent permettre d'atteindre les protocoles participatifs, incorporer dans le processus décisionnel les valeurs et préférences du public, recréer de la confiance, atténuer la logique des conflits. Et c'est ensuite, dans un second temps, que, de manière assez pragmatique, très, très, très empirique, il convient d'analyser comment certains attributs de contexte ou de procédure sont plus ou moins corrélés avec les chances de voir les protocoles réaliser ces différents objectifs. Et donc une telle approche nécessite de déployer une méthodologie originale, puisqu'il s'agit en fait d'embrasser un vaste corpus de cas. Ils ont travaillé sur une trentaine de cas de planification environnementale. Et donc en codant en fait tous les documents relatifs à ces différents cas en codant les attributs procéduraux, les attributs de contexte, une identification, une appréciation sur le degré d'atteinte des résultats et donc ensuite ils ont tenté d'établir des corrélations. Un point qui est donc juste pour un des résultats qui est intéressant dans leur approche, au-delà je trouve de l'intérêt donc méthodologique hein, de développer comme ça de travailler sur un nombre important de cas et donc d'avoir finalement une possibilité d'obtenir des recommandations qui ne soient pas uniquement adossées à une ou deux ou trois monographies. C'est qu'ils n'observent pas de lien significatif entre l'atteinte de ces objectifs donc, qui sont mentionnés et le degré donc, d'empowerment ou d'emparement du public, c'est-à-dire son contrôle et son influence sur l'ensemble du processus. Et donc c'est une façon d'interroger en fait, la hiérarchie de la très célèbre échelle d'Einstein. Ce dernier point donc, semble corroboré par les résultats de la troisième approche qui est développée donc, par Thomas Weibler, hein, donc le même que celui qui a travaillé avec Ortwin Rennes sur le modèle du discours coopératif. Et cette fois, en fait, Thomas Weibler a cherché, là encore avec une méthodologie originale, à identifier en fait, à partir des attentes des participants eux-mêmes au protocole participatif. Et il a identifié 5 discours qui structurent les attentes des protagonistes d'un protocole participatif et donc un bon protocole peut par exemple être aussi bien celui qui permet à un décideur de prendre une décision éclairée que celui qui va structurer un débat sur les valeurs et qui va conduire à une reconnaissance mutuelle entre des personnes qui se vivaient avant comme des adversaires ou troisième exemple parmi les 5, un protocole qui permet d'arriver à une décision consensuelle donc suite à la mobilisation d'une base informationnelle de qualité. Il y a là donc une approche qui nous paraît tout à fait importante, intéressante. Et qui finalement pourrait inviter à essayer de creuser une idée d'identifier, de formaliser des cités, non plus des cités de justice, mais des cités de la décision environnementale au sens des représentations concernant ce qu'est une bonne décision environnementale dans les sociétés contemporaines. Alors cette réflexion normative a directement ou indirectement nourri la réflexion des concepteurs de certains des protocoles que nous allons désormais passer en revue, donc en notamment le second temps plus descriptif. de notre présentation. Et c'est donc Corinne qui va poursuivre.